Chers frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe dans l'évangile que nous venons d'entendre? Comment le comprendre? Il faut reconnaître que c'est un peu confus. Je ne sais pas si vous avez eu cette impression-là à cette première lecture. C'est un peu confus quand même. Hein. Il y a des choses très très belles qui se passent. On entend la voix du Père, alors on ne l'entend pas souvent, hein, le Père. Quand le Père il parle comme ça, surtout quand c'est pour nous, parce que c'est Jésus qui dit... le Père qui dit « Glorifie ton fils, je glorifie mon fils, je te glorifie, je te glorifierai encore. » Quand le Père en direct parle à son fils pour que nous tous on entende, il faut s'arrêter 3 secondes, quoi. Il faut essayer de comprendre. Il faut essayer de comprendre la situation parce qu'elle est grave. On est juste avant la mort de Jésus. D'accord ? On est à peu près 1 semaine et demie avant la mort de Jésus. Jésus vient de ressusciter Lazare. Alors ça, c'est un acte politique qu'il vient de faire, super grave. En fait, dès que Jésus fait du bien, plus Jésus fait du bien, plus il est poursuivi, et plus on cherche à l'attraper, et plus on cherche à le faire mourir. Voilà, ça faut avoir ça dans la tête. Et là, il vient de ressusciter Lazare. Alors quand vous ressuscitez un mort qui sort du tombeau, vous voyez, le tombeau à l'époque de Jésus, c'est un trou dans la muraille, que le mort il sort comme ça devant tout le monde, simplement parce que vous avez dit « Lazare sort », je rappelle que Lazare ça veut dire « Dieu sauve ». Politiquement, c'est pas correct. C'est pas un acte correct. Et du coup, Jésus est poursuivi. La poursuite commence à être vraiment serrée. Il va se réfugier à Gethsémani. Et la scène qu'on a entendue, se passe à Gethsémani. Gethsémani, c'est en face de Jérusalem. Il y a une légère vallée. Alors n'imaginez pas les vallées, cette vallée comme une de nos vallées profondes et vastes. Non, là, c'est plutôt un petit truc. Pour des Français, ce serait une petite vallée. Une vallée ounette, vous voyez. Et puis la montagne en question, Jérusalem, c'est une colline. Et en face, il y a une colline de la même taille, Gethsémani. Gethsémani, position très importante, parce que Gethsémani, c'est un endroit où vous êtes très rapidement dans le désert. Tous ceux qui veulent partir en vitesse sans se faire attraper, ils vont à Gethsémani, parce que tout de suite après Gethsémani, il y a le désert, et tout de suite, il y a des grottes où on peut se cacher, et là, c'est sûr, on ne peut pas vous attraper. Donc Jésus est là. On le poursuit. Il est à Gethsémani. Et Jésus va décider de rester. Il ne va pas fuir. Il va rester là. Et pourquoi il reste là? Parce qu'il veut volontairement affronter la mort. Il veut affronter la mort. Il veut rentrer dans la mort. Il ne se suicide pas. Il se donne, il affronte. J'ai ressuscité Lazare, je vais faire bien plus que ressusciter Lazare, je vais ressusciter le monde entier. C'est ça qu'il y a dans son cœur, vous voyez, une espèce de force qui monte, incroyable, envoyée par le Père. C'est la gloire du Père qui commence à venir dans son cœur. Et au lieu de fuir comme un lâche, il affronte. Très important de prendre conscience de ça. Il va rencontrer la mort. Pourquoi? Pour que la mort ne soit pas une fin, mais un passage. Pour que notre vie ne soit pas terminée au moment de la mort, mais qu'elle continue et qu'elle se déploie pendant l'éternité. Et il faut reconnaître que cette question de notre vie, ce que fait Jésus là à Gethsémani, ce que fait le Père quand le Père dit je te glorifie, je te glorifierai encore, en fait, le Seigneur est en train de nous dire à nous, de nous expliquer à nous comment vivre. pas seulement en affrontant la mort comme lui, bien plus profondément, Jésus nous donne pas une leçon, mais nous fait comprendre et va essayer de nous faire comprendre quel est le sens profond de notre existence. Vous voyez ? Tous autant qu'on est, hein, tous, on est nés de façon chaotique. Tous. Le jour de notre conception a été chaotique. Pas imaginer que nos parents ont rêvé notre existence. Bien sûr, pour certains d'entre nous, ils étaient tout jeunes, alors ils voulaient avoir des enfants, ils voulaient avoir un aîné, alors ils ont fait ce qu'il fallait pour ça, dans l'enthousiasme, etc. Mais en réalité, oui, c'est vrai, mais c'est chaotique. C'est toujours chaotique. La conception d'un enfant, c'est toujours chaotique. Interrogez les époux, vous êtes époux vous-même, vous le savez. Pas vous apprendre la vie. Je vais prendre une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut. Comme toutes les comparaisons du monde, elles sont super limitées. Mais j'aime bien cette image, figurez-vous. Au début de notre vie, je pense, ça ressemble un peu à un gland. Mais un gland d'un chêne qui tombe par terre. On arrive. Les cellules de papa et les cellules de maman se mélangent. Et la vie commence, et le gland tombe par terre. Il y a des milliers de glands, hein, en fait, en bas du chêne. Il y a des milliers de possibilités. Bien des glands poussent et deviennent d'autres chênes. Là encore, de façon chaotique. Faut pas fantasmer la vie humaine. La vie humaine, on en a décrit... Tous les virages, toutes les arcanes, etc. Mais la vie humaine, c'est chaotique. Toutes les vies humaines sont chaotiques. On grandit avec des peurs, on grandit avec des angoisses. On vit avec des succès, c'est vrai, mais qui ne sont pas là toujours. Puis des succès qui arrivent, et puis des succès qui se terminent, et puis des réussites, et puis des échecs. C'est ça, la vie humaine. Enfin, interrogez les vieux, vous verrez. Au début de la vie humaine, il peut y avoir des sangliers qui passent. Vous savez, le propre du sanglier, c'est de manger les glands. Évidemment, si le gland est mangé, il n'y aura pas de chaîne. Ça, c'est sûr et certain. Il n'y aura pas cette vie incroyable qui naît et qui va produire un fruit fantastique, une gloire incroyable. La gloire de Dieu ne va pas pouvoir se réaliser pleinement. Le gland est mangé par le sanglier. Le sanglier, c'est quoi ? Le sanglier, c'est la peur. C'est la peur. Au début de la vie humaine, souvent, on arrête la vie. Pas à cause des lois, pas à cause des possibles, mais parce qu'on a peur. On a peur de ce que va devenir le gland. On a peur. Le sanglier, c'est la peur. On retrouve exactement la même chose à la fin de la vie humaine. Ce grand chêne immense, chez nous en France, sa vie peut durer 100 ans, 200 ans. C'est extraordinaire de voir un chêne. Mais un jour, il meurt à cause d'une foudre, à cause de beaucoup d'eau qui arrive, qui pourrissent le tronc, à cause de je ne sais pas quoi, mais le chêne meurt. Il tombe et les savants ont découvert récemment que la vie du chêne avait été importante jusqu'à la fin. Et même encore à la fin, quand il s'enfonce dans l'humus, sa vie est encore importante. Et notre vie humaine est importante jusqu'à la fin. Le sens de notre existence, qui est de porter du fruit, même si on n'en a pas conscience, est importante jusqu'à la fin. Alors c'est fraternel de l'arrêter ? C'est fraternel de vouloir arrêter cette vie ? Si on fait ça, frères et sœurs, si on arrête la vie parce qu'on a peur au début, si on l'arrête à la fin parce qu'on ne sait pas, parce qu'on a peur, parce qu'on est angoissé, parce qu'on est économiquement faible, comme j'ai lu récemment dans un journal, parce qu'on veut organiser la coupe des chaînes. pour que tous les chênes, soi-disant, puissent vraiment vivre sur la terre. Qu'est-ce qui va nous arriver, chers frères et sœurs? Où va se manifester la gloire de Dieu? Comment est-ce que la gloire de Dieu va se manifester? Mais bien sûr, c'est chaotique au début, c'est chaotique pendant, et c'est chaotique à la fin. Mais qui a le droit d'arrêter cette puissance? Le Père lui-même le rappelle et le dit. Je te glorifie, ça veut dire je te donne ma vie. Mais je te donne ma vie dès la première seconde de ton existence. Je te donne ma vie jusqu'à la dernière seconde de ton existence. Et croyez-moi, accompagner une vie humaine à la dernière seconde de l'existence, c'est un don incroyable. Ça, c'est de la fraternité. Mais pas pour que la vie s'arrête. Au contraire, pour participer à cette glorification qui va ensuite traverser la mort et qui va se déployer dans l'éternité. La vision de la vie humaine est une vision de gloire. Ce n'est pas une vision où doit régner l'organisation, où doit régner la pauvre petite pensée humaine. Ce n'est pas la pensée humaine qui glorifie le cœur de l'homme. On n'est que des glands. Regardez-vous, regardez-moi, regardez les sœurs. En vrai de vrai, on n'est que des glands. On est extrêmement fragile. Mais Dieu le Père a choisi de se manifester en nous, en chacun d'entre nous, et particulièrement dans les plus faibles. C'est ça qui est fou. Quand Jésus est à Gethsémani et que Philippe vient le voir, c'est le début de l'écriture, Philippe vient le voir à ce moment-là, vous vous rendez compte, Jésus est en train de décider d'offrir sa vie, et Jésus et Philippe, son disciple, son apôtre, vient le voir et lui dit, j'ai des copains, des Grecs, ils veulent te voir, Jésus. Ils veulent te voir face à face. Et Philippe, qui arrive sur les ondes. C'est toujours comme ça que ça se passe, en vérité. Vous êtes en train de prendre une grosse décision et tout d'un coup, vous avez ce rond-blin de Marie qui arrive. Mon père, qu'est-ce qu'on fait pour la porte qui est cassée? Pour la porte qui est cassée. Et là, vous dites, ah, non, il faut absolument que je lui réponde parce que ça fait partie du business quand même. Mais c'est vrai, dans nos vies, c'est toujours comme ça que ça se passe. Ah oui, vous êtes en train de faire un truc super important et boum, il y a un truc qui paraît moins important qui arrive. Et c'est étonnant parce que Philippe dit, il y a des Grecs qui veulent te voir. Et la réponse de Jésus, c'est accepte d'entrer dans la mort pour vivre. Vous vous rendez compte? Voir Jésus, c'est ça que ça veut dire en fait. Voir Jésus, c'est consentir à traverser un passage dans lequel, à travers lequel, on ne va pas maîtriser grand-chose. C'est ça la mort en fait. La mort, c'est un passage par lequel on passe, mais dans lequel on ne va pas maîtriser grand-chose. Mais, chers frères et sœurs, on a déjà fait ces passages dans notre existence. Quand on est passé de l'intérieur de maman à l'extérieur de maman, c'était un passage, on n'a pas maîtrisé grand-chose. Et après, quand on est passé de l'âge du bébé à l'âge de l'enfant, on n'a pas maîtrisé grand-chose non plus. Puis quand on est devenu un ado, vous maîtrisez grand-chose, les ados? Vous maîtrisez? Mais la vérité, c'est que vous maîtrisez rien. Vous aimeriez bien maîtriser, mais vous maîtrisez rien. Passage, c'est un passage, l'adolescence. Puis ensuite, on devient un jeune adulte. Alors là, on sent qu'on a envie de maîtriser des tas de trucs. La vérité, c'est que vous maîtrisez rien. Oui, un petit peu quand même, mais rien, en fait. Et les meilleurs d'entre nous ont compris ça et donc accueillent la vie, vivent de cette vie et se donnent à cette vie en acceptant les passages. Oui, bon, ben c'est bon, je vois pas comment ça va se terminer, mais j'y vais. C'est ça, la vie. C'est ça que Jésus est en train de leur dire. Tu vas traverser des passages, mais ma gloire sera avec toi du début à la fin. Et même au-delà de la fin. Alors vas-y, passe. Passe à travers la maladie. Passe à travers les âges. Passe à travers ta vieillesse. Passe à travers la mort. Tu peux y aller. Moi, le Seigneur, ton Dieu, j'ai fait ce passage. Et je vais t'accompagner. Et ta vie ne se terminera jamais. Quelle page de l'Écriture incroyable. Frères et sœurs, Dieu nous donne aujourd'hui la possibilité, si nous l'acceptons, d'être profondément heureux. Ça ne veut pas dire d'être joyeux tout le temps, de danser sur les... mais d'être profondément heureux parce qu'on se sait accompagner. Et dernier petit détail, qui est important, je pense, c'est que vous avez remarqué, la gloire de Dieu, elle est en moi. Elle n'est pas à l'extérieur de moi. Ça veut dire que je la trimballe, la gloire de Dieu. Vous la trimballez partout, vous la trimballez au bureau, vous la trimballez quand vous vous baladez, vous la trimballez quand vous embrassez votre mari, la gloire de Dieu. Vous la trimballez quand vous parlez à son mari Joël, la gloire de Dieu. Vous la trimballez partout, la gloire de Dieu. Donc elle peut vous modifier, elle peut vous transformer, elle peut transformer la personne qui est en face de vous. Vous voyez, l'amour, cette puissance d'amour sans cesse se transforme et se déploie. Qui peut arrêter ça? Personne. Personne. Si vous le voulez bien, demandons à la Sainte Vierge. Demandons à la Sainte Vierge la grâce de vivre une expression américaine très connue. J'ai un de mes amis qui est ici, qui l'a dit souvent. Vous savez que les Américains, quand ils sont devant un truc un peu étonnant, ils disent « Waouh !» Vous avez déjà remarqué ?« Waouh !» Ça ne veut rien dire, mais bon, « Waouh !» Eh bien, demandons à la Sainte Vierge la grâce d'un « Waouh !» spirituel. Qu'on puisse prendre conscience de cette vérité et dire du plus profond de notre âme « Waouh ! C'est ça la vie !» Et qu'elle puisse se réaliser en nous. Et surtout dans le cœur de ceux d'entre nous qui se sentent les plus fragiles et les plus pauvres. Amen.